Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 13, des versets 1 à 18, autrement dit, tout le chapitre. Genèse, chapitre 13, versets 1 à 18. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Or, Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Puis il s'en retourna par ses campements, du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où avait été sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Et Abraham y invoqua le nom de l'Éternel. Or, Lot, qui marchait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble, car leur bien était si grand qu'ils ne purent demeurer ensemble. Et il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, était arrosée partout, en allant vers Tsoar, comme le Jourdain de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il partit du côté de l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. » Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors Abraham transporta ses tentes et vint demeurer aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alors on va demander au Seigneur qu'il bénisse notre étude. Notre Dieu, nous sommes tes enfants, tu nous as accordé la grâce, tu nous as libérés de notre péché, tu nous as, Seigneur, donné la lumière. Tu nous as donné une raison de vivre aussi, Seigneur, ce matin. On veut étudier ta parole dans ce chapitre 13 de la Genèse. Bien sûr, à l'intérieur de tout chapitre des Écritures, il y a d'importants principes, d'importants enseignements pour nos âmes, pour transformer nos personnes et nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Puisses-tu nous donner de les saisir, de les comprendre et surtout de leur obéir et de les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, j'ai intitulé aujourd'hui le sermon « Le Dieu souverain permet à Abraham de reprendre la bonne direction ». Alors, on va voir qu'il le fait, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a au moins trois grandes idées à l'intérieur du texte. Il le fait par le rétablissement. Quand vous regardez les quatre premiers versets, on voit que Abraham retourne vers le midi, donc il retourne, et il sort d'Égypte et il retourne dans le pays de Canaan et il retourne à l'endroit où il y avait eu des grandes bénédictions avec l'Éternel ou qui avait adoré l'Éternel à Bethel, à un endroit où il y avait eu un autel avant. C'est ça que ça nous dit dans le texte. Alors, c'est le rétablissement. Autrement dit, il était sorti de la communion avec Dieu en allant en Égypte, en désobéissant, en utilisant des moyens charnels pour essayer de protéger sa femme ou se protéger lui-même et tout cela. Mais on voit que là, il a compris le message, Dieu l'a corrigé, et il retourne dans la terre promise. Alors ça, c'est vraiment, pour lui, ça veut dire qu'il avait compris qu'est-ce que Dieu lui avait enseigné quand il était en Égypte. La deuxième partie, c'est dans le verset 5 à 13. On va voir que Dieu permet parfois qu'on revienne à la case départ. Moi, j'appelle ça revenir à la case départ. Souvent, l'Éternel va permettre une épreuve dans ta vie. Tu manques ton coup et il te corrige. Et souvent, pour voir si tu as compris, il te ramène à la case départ. Autrement dit, il te remet presque dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances où tu as encore à choisir où tu agis par la chair ou tu agis par la foi. Alors, on va voir qu'il le remet dans un recommencement. Il est placé avec Lot dans un recommencement où il va avoir à choisir s'il agit selon la chair ou s'il agit selon la foi. Et le verset 14 à 18, je l'ai appelé le réalignement. Alors là, il va se réaligner. Dieu va le réaligner. C'est bizarre parce que après qu'il va avoir fait beaucoup de sacrifices avec son neveu, il va y avoir donné des droits qu'il n'y avait pas, et il va avoir agi envers lui d'une manière très, très, très magnanime, grandeur d'âme. Et c'est bizarre parce que après que tu t'es sacrifié pour Dieu, pour garder la paix, Dieu lui apparaît et vient lui confirmer l'alliance qu'il avait fait avec lui au début. Alors, c'est vraiment un réalignement. Il dit, garde, OK, tu as bien agi. Maintenant, ce que je t'avais promis, oublie pas, tu vas l'avoir, parce que je te l'avais promis. Alors, c'est très intéressant de regarder le fil conducteur de l'ensemble du texte. Ce que j'ai... un auteur me faisait remarquer en lisant le texte et le texte précédent, le chapitre 12, et il nous dit, c'est instructif de méditer sur les conflits qu'a rencontré le père des croyants. Le premier conflit, c'était quoi? Conflit avec la chair. Conflit avec, je marche-tu avec la foi en Dieu ou si je marche en mes propres moyens? Et on a vu qu'il a essayé ses propres moyens et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a tourné à la catastrophe. Et si ce n'eût été de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, ça aurait pu vraiment tourner beaucoup plus pire que ça l'a tourné. Alors, le premier conflit avec la chair. Est-ce que ça nous apprend une leçon sur nous, sur notre façon de rentrer dans la vie chrétienne? Souvent, notre premier combat, nous autres aussi, c'est avec la chair. On arrive dans la vie chrétienne, on se rend compte qu'il y a plein de difficultés. Tu sais, la Canaan, là, c'est l'entrée dans la vie chrétienne. Et il y a plein de difficultés. On est haï. Si on fait des remarques à quelqu'un, on nous tasse. Les chrétiens, ils se rendent compte souvent que on a de la difficulté à rentrer dans la vie chrétienne correctement. Et souvent, ça a pour effet que la chair embarque, la peur te pogne, tu fais des gestes semblables ou des gestes équivalents à ce qu'Abraham a fait, manque de confiance en Dieu, et tu suis ta chair au lieu de suivre le Seigneur. Le deuxième conflit, c'est intéressant, parce que c'est avec un frère. Parce qu'on se rapportait à dire, OK, c'est à son neveu, c'est à un inconverti. Non! Les Écritures nous disent, dans le Nouveau Testament, si on suffirait uniquement sur son comportement, on pourrait dire, fort probable, que Lot n'était même pas un homme sauvé. Tellement il agissait charnellement, puis mondainement, et tout ça. Pourtant, les Écritures nous disent, dans le Nouveau Testament, Lot, le juste. Alors, c'était un frère dans le Seigneur, mais il y avait Abraham était, si tu veux, le type du croyant qui manifeste sa foi, tandis que Lot, pas drôle sa vie. Quand on regarde la vie de Lot, là, c'est échec par-dessus échec, par-dessus échec, par-dessus échec. Pourtant, le Seigneur, dans sa grande bonté, a quand même pas permis qu'il soit sauvé quand même. Alors, le deuxième conflit avec un frère. Quand on rentre dans la vie chrétienne, je ne sais pas si vous n'avez eu des conflits avec les frères. Mais moi, je regarde ma propre vie. J'en ai pas eu une tonne, mais j'en ai eu. Et c'est très désagréable. Parce que là, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a de l'orgueil. Là, disons qu'on pêche, on a de la misère à aller voir la personne, demander pardon. Et des fois, ça s'étire. J'ai vu ça dans des assemblées. Des personnes qui rentrent en conflit avec un frère ou une sœur. Et la durée, ça serait supposé d'être quasiment instantané, c'est que tu vas voir la personne puis tu demandes pardon. Puis ça s'est réglé avec Dieu. Mais souvent, c'est pas le même que ça se passe. Souvent, ça s'étire. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça a comme effet sur votre vie, puis sur la vie de l'autre aussi? Puis souvent, ils se forment des petites cliques. C'est vraiment pas drôle quand on observe ça. On voit, dans le fond, notre dépravité, notre corruption, notre misère, notre difficulté de vivre selon les principes divins. Alors, après l'Égypte, Abraham éprouve un nouveau désir de chercher le Seigneur. On a ça dans les quatre premiers versets. Et on apprend à l'intérieur de ça que le chemin de la foi est rarement rectiligne. C'est pas une ligne droite, la foi. Il y a souvent des courbes, puis il y en a des courbes, puis il y en a des importantes aussi. Alors, la première est importante, mais là, il va agir correctement. Alors ici, on voit que Abraham a repris contact avec Dieu, mais on va voir aussi à l'intérieur du texte qu'il n'y est pas encore pour autant au bout de ses peines dans ses expériences éprouvantes. Alors, l'expérience avec son neveu, ça a été une expérience éprouvante. Alors ici, le pays est au cœur d'une nouvelle difficulté à laquelle encore il doit faire face. Alors, on va étudier ensemble son expérience et je pense que si on est le moindrement observateur, on va profiter de plusieurs enseignements, à la fois de Abraham et à la fois de Lot et à la fois de Dieu. On apprend des choses sur Dieu, on apprend des choses sur Abraham, on apprend des choses sur Lot. Alors, bien entendu, dans la manière de gérer un conflit avec un frère, je pense qu'ici, Abraham est vraiment un modèle à imiter. Tandis que Lot est vraiment un modèle à éviter. Et on apprend là-dedans que quand on agit correctement, Dieu intervient par une bénédiction. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Dieu te laisse pas là-dedans, puis il te laisse en doute. As-tu bien agi? N'as-tu trop donné? Il vient confirmer que tu as bien agi par une bénédiction. Alors, on voit à l'intérieur de ce texte-là, dans son ensemble, chapitre 13, comment notre grand Dieu conduit son élu. Comment, autrement dit, nous conduit nous aussi. Avec grâce, avec miséricorde, avec amour, avec fidélité et aussi avec sagesse. Alors, on va regarder nos quatre premiers versets. Le premier point, c'était par Dieu souverain permet à Abraham de reprendre la bonne direction. Il va lui permettre cela par le rétablissement. Il était hors de la communion avec Dieu quand il était allé en Égypte. Alors, il va le restaurer en grâce dans le verset 1. Genèse, chapitre 13, verset 1. « Et Abraham monta. » Voyez-vous, quand il avait descendu en Égypte, on utilisait le verbe « descendre ». Et là, il fait le contraire, il monte. Il monte vers la terre promise, il monte en Canaan. Il veut se remettre dans la bénédiction avec Dieu. Alors, il monte en Égypte vers le Midi. Autrement dit, il retourne en Canaan. Il a pris la bonne direction. Et c'est sûr que sa famille, ils ont été témoins de toutes les bêtises qu'il a faites là-bas. Là. Mais il est quand même encore le leader. Un leader qui se trompe, c'est encore un leader. Alors il devient, il dit, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Autrement dit, il repart avec toute la famille, toute la gang, comme on dit, avec tout son matériel aussi, et Lot avec lui. Alors, on voit que son neveu, il suit. Son neveu, s'il était d'un caractère plus faible, quelqu'un qui est d'un caractère faible puis qui est placé longtemps dans un milieu mondain, dans un milieu comme l'Égypte, qui est une image, qui est un symbole du monde, bien sûr, tout cela a eu un effet sur son cœur. Tout ça a eu un effet sur son comportement, sur sa compréhension des choses. Alors, c'est intéressant de voir le choix des mots pour parler du départ de Canaan et le retour vers Canaan. Quand on regarde Genèse 12, verset 10, Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte. Et vous, descendre, monter. Les mots sont pas... Il n'y a pas un mot dans les Écritures. Ça, c'est une affaire qu'il faut de plus en plus méditer. Chaque mot qui est donné dans les Saintes Écritures est inspiré de Dieu. Il y a une idée dans chaque mot. Il y a quelque chose à apprendre à l'intérieur de chaque mot. Alors, le choix des mots est important. Et il avait descendu en Égypte pour y séjourner à cause du fait que la famine était grande. Alors, on avait vu dans notre étude précédente que Abraham avait agi par la chair et par manque de confiance en Dieu. On le sait, l'Égypte est un symbole du monde dans les Saintes Écritures. Dieu l'avait corrigé sévèrement, mais aussi, nous ne devons pas l'oublier, miséricordieusement. Alors, nous voyons ici, dans le verset 1, qu'il monte vers le Midi, autrement dit, il monte vers Canaan. Alors, Abraham quitte l'Égypte et retourne sur le chemin du devoir et s'éloigne du lieu des tentations. Il exerce encore son rôle de leadership, il amène son épouse, Lot et tous ses biens. Intéressant de voir que même dans un seul verset, il y a des choses que Dieu nous apprend à l'intérieur de cela. Quand on a fait une bêtise, que Dieu nous a corrigé, est-ce qu'on reste là? Non, on retourne sur le chemin où on se devrait d'être. Alors, la restauration en grâce, c'est un moyen que Dieu utilise pour le rétablir. L'autre, c'est l'apprentissage de la prospérité. Ça, on pense souvent que, des fois, on dit, « Ah, Dieu me bénit. » Plus on a de bien, plus on pense que Dieu nous bénit. Il y a une vérité là-dedans, mais le problème, c'est que souvent, la grande quantité de bien et la richesse devient une épreuve. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas gérer ça. Et combien de chrétiens se sont cassés la gueule, comme on pourrait dire, quand Dieu a permis qu'ils aient des grands biens? Je pourrais vous donner des exemples en quantité là-dessus. Alors, l'apprentissage de la prospérité. Si Dieu permet qu'il vienne un pays, tu es pauvre, et il te donne tout d'un coup une prospérité qui est importante, ça dit qu'il y avait beaucoup d'animaux, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des serviteurs, il y avait des bêtes, tout ce que vous voulez. Et ça va créer des problèmes. La prospérité, souvent, crée des problèmes que tu n'as pas quand tu es pauvre. Les Écritures nous disent souvent que quand on est pauvre, c'est une bénédiction de Dieu. Quand on est riche, c'est une épreuve que Dieu permet qu'on traverse. Mais la preuve, ici, on va voir que Abraham, parce qu'il est encore, il s'appelle encore Abraham et non pas Abraham, ça va être plus tard qu'il va s'appeler Abraham, il est capable, il a traversé, il a appris à vivre avec la prospérité. Et là, tu peux avoir la prospérité, que Dieu soit encore dans l'équation de ta vie. Mais il y a toujours un très grand danger d'une grande prospérité dans ta vie. C'est intéressant de voir comment les commentateurs traitent cette question-là quand on parle de... quand il dit « Abraham était très riche en bétail, en argent et en or ». Le mot utilisé en hébreu pour traduire « très riche » véhicule l'idée de pesanteur. C'est pas la première fois que je vois ça dans les Écritures, là, l'idée de pesanteur. Autrement dit, plus tu as de prospérité, plus tu deviens pesant. Pesant dans le sens que plus on a de bien, plus c'est difficile, disons que Dieu te demande quelque chose, tu es pogné avec tout ça. Alors que quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas ce problème-là. Alors, l'idée de pesanteur, si le texte pourrait se traduire « Et Abraham était très pesant ». Parce que plus tu as de bien, c'est vrai qu'on est plus pesant quand on a plus de bien. Plus une personne a de bien, plus il devient pesant dans le sens, il y a plusieurs sens qu'on pourrait donner à ça, mais plus ça devient pour lui, jusqu'à un certain point, une source de soucis. C'est des soucis d'abord pour l'acquérir, des soucis pour la conserver, ta richesse, des soucis pour l'utiliser, des soucis pour risquer d'en abuser. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, beaucoup de biens, la facilité d'aller pour pêcher avec tes biens est bien plus grande. Moi, j'avoue que quelqu'un qui a vécu une vie de péché, si Dieu avait permis qu'il soit riche, là, dans certains cas, là, il sera mort. Il sera mort. Alors, risquer d'en abuser, risquer de tout perdre, n'est-ce pas que les riches sont toujours poignés avec l'idée, mais là, je vais perdre mon argent. Ils sont toujours en train de vouloir contrôler leur affaire. Et il y a une chose qu'ils n'oublient pas, qu'ils oublient. C'est que quand Dieu te donne de la prospérité, un jour, tu vas avoir des comptes à rendre de la manière dont tu as géré tout cela. Plus tu as d'argent, plus tu as de biens, plus Dieu va te demander des comptes sévères. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Tu peux avoir très bien agi dans certains cas, puis tu peux avoir très mal agi dans d'autres cas. Alors, l'expérience d'Abraham ici nous démontre qu'il est possible d'être vainqueur dans la gestion de la richesse, mais aussi nous apprend qu'elle comporte de grands risques et de grands dangers. Versets 3 et 4, donc, le rétablissement par la restauration en grâce, verset 1, l'apprentissage de la prospérité dans le verset 2, et dans le verset 3 et le verset 4, moi j'appelle ça le retour à la case départ. Tu sors d'une épreuve, il te remet dans une autre situation. Bon, OK, on va regarder comment il agit là. Dieu est présent dans ta vie, mais agis selon ce que les Écritures enseignent. Genèse chapitre 13, versets 3 et 4. Puis il s'en retourna par ses campements, du midi jusqu'à Bethel. Intéressant, Bethel veut dire maison de Dieu. Jusqu'au lieu où avait été sa tente au commencement. Entre Bethel et Haï. Bethel veut dire maison de Dieu. Haï veut dire, je pense, ça veut dire, je ne me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose comme débris, quelque chose comme ça. Autrement dit, c'est vraiment l'idée qu'il retourne à la case départ. Et là, il va être placé devant une situation, qu'il veuille, qu'il ne veuille pas. Là. Il va être placé dans une situation. Et ça dit dans le verset 4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Donc, l'idée, c'est qu'il veut revenir à la case départ, mais il veut revenir, il sait très bien que Dieu l'a béni là, qu'il était dans un bon état spirituel au moment qu'il était là, et c'est là qu'il veut revenir. Et la fin du verset 4 est intéressant. Abraham, il invoqua le nom de l'Éternel. C'est intéressant de voir que invoquer le nom de l'Éternel, c'est pas juste qu'il s'est bien prié. Il a voulu, autrement dit, rétablir sa communion avec Dieu publiquement. Parce que quand on invoque le nom de l'Éternel, l'idée d'adoration publique est là. Il n'a pas eu peur de faire ses choses devant le monde, comment que le monde le regarde faire, ça, ça faisait son affaire. Alors, il invoque le nom de l'Éternel. Alors, Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où il y avait eu de la communion avec Dieu et où il y avait eu de la manifestation divine aussi. Alors, deux choses sont à observer, l'autel et l'invocation du nom de l'Éternel. L'autel, qu'est-ce que ça vient faire dans le portrait? Un autel, c'est un endroit où on offre un sacrifice. Il venait de pécher. Qu'est-ce que les Écritures nous disent de faire? Confesser notre péché et savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé pour le péché, là. Donc, l'autel, pour lui, c'est une compréhension qu'il avait péché et c'est comme un rétablissement dans les voies de Dieu. Alors, vraiment, l'autel rappelle la nécessité du sacrifice pour le pardon des péchés. Autrement dit, c'est une vision anticipative de l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était une vision de la venue future qui aurait un sacrifice pour le péché. Alors, quand il y avait un autel, c'était ça qui était l'idée en arrière de tout cela. Alors, l'invocation du nom de l'Éternel indique deux choses, la pratique de la prière et le rétablissement de l'adoration publique de Dieu. Alors là, autant il a essayé de se cacher en Égypte, maintenant il va ouvrir son jeu et il va manifester qu'il croit en Dieu, il va le faire publiquement. Moi, il y a un principe que j'apprends dans le verset 3 et 4. C'est le principe. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ça. Le principe de notre devoir d'être proche d'une bonne église. Autrement dit, le principe de la proximité d'un lieu d'adoration publique fidèle.
Je me souviens, dans le temps que j'étais à l'école biblique, j'avais des discussions des fois avec d'autres étudiants, puis un étudiant qui me disait, « Moi, personnellement, je pense que quand un chrétien déménage, il ne devrait jamais déménager dans une ville où il n'y a pas une église fidèle. » Autrement dit, ton lieu d'installation devrait toujours tenir compte du fait est-ce qu'il y a une église fidèle ou non. Moi, à cette époque-là, je n'étais pas d'accord avec lui. Je dis, voyons donc. Je dis, si une personne, je ne sais pas, c'est un ingénieur, puis il reste dans le Maine, puis là, à un moment donné, il se fait offrir une belle promotion pour s'en aller à New York. Je dis, voyons donc, il va s'en aller à New York, il va se trouver une église. Puis ça a pris du temps à se saisir qu'il avait raison. Parce que s'il part d'une église fidèle, disons, dans le Maine, puis il s'en va dans l'État de New York, puis il n'y a pas une bonne église fidèle. C'est vrai qu'à New York, là, c'est gros. Là. Mais disons, des fois, ça peut être dans une plus petite place aussi. Alors, le fait de, avant de prendre une décision dans la gestion de ta vie, de regarder ce fait-là, est-ce qu'il y a une église fidèle dans l'endroit où je vais m'en aller? Et de prendre une décision en fonction de cela, c'est jamais une perte. Même si ça a l'air, du coup, tu t'en vas, disons, dans un endroit où il n'y aura pas beaucoup de bonnes églises, tu seras obligé de faire 2 heures avant d'aller, 2 heures de déplacement. Ben moi, je dis que la personne a la raison de rester où elle est. Si tu n'as pas une bonne église, déménage pas là. Parce que ça va avoir un effet très important sur ta vie. Alors, le principe que je vois là-dedans, Abraham a été éprouvé. Il retourne dans les lieux où l'expression de sa foi est forte. Alors, on voit qu'il y a des principes à l'intérieur des leçons si on veut vraiment s'ouvrir les yeux et les voir. La deuxième idée, on a dit que c'était par le recommencement. Alors ici, on va voir dans les versets 5 à 7 que ça va lui amener un problème dans sa vie. Verset 5, « Or Lot, qui marchait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tendres. » Donc, il n'était pas tout seul qui était riche. Il y en avait un autre à côté de lui qui était aussi riche que lui. « Et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble. » Autrement dit, il y avait tellement de bêtes, il y avait tellement de choses, tellement de richesses, que le fait de vouloir partager le même terrain, ça mettait les bergers de l'un et de l'autre en conflit. Car ça dit, vers la fin du verset 6, « Car leur bien était si grand qu'ils ne purent demeurer ensemble. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, la proximité, ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'on vit chacun chez nous, là. On n'a pas de problème. Mais je vous garantis d'une chose, prenez 3-4 familles, mettez ça dans le même petit espace. La proximité crée des problèmes. Automatiquement, la promiscuité, souvent on appelle ça la promiscuité, souvent quand les gens vivent dans un petit espace, ça crée énormément de problèmes. On en voit un exemple ici. Verset 7, « Or, il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, les Cananéens, les Phérisiens demeuraient alors dans le pays. » Voyez-vous, il y a plusieurs idées là-dedans. Qui est la source du conflit? C'est un conflit qui va devenir un conflit entre frères, mais c'est qui l'a emmené? Est-ce que c'est les deux frères? Non, c'est des personnes de leur entourage qui avaient séjourné en Égypte, donc qui avaient hérité de valeurs et qui avaient été trempés dans un milieu qui n'était pas bon pour eux. Et on voit que tout ça se traduit dans leurs gestes. La querelle, la chicane. « Ah ben là, tu viendras pas faire bouillir tes brebis en même temps que les miens, là, parce que là, tu es en train, puis là, je vais t'obliger d'aller plus loin, moi, là. Là. » Puis là, la chicane pogne. Et là, bien sûr, la chicane de serviteurs, ben, elle monte en haut. Ils veulent avoir une décision. Alors, la chicane, Abraham est pogné avec un problème. Il faut qu'il prenne une décision. Alors, dans le verset 5, on voit qu'il y a un conflit annoncé. Plusieurs indices nous sont donnés pour laisser deviner l'arrivée d'un conflit. La grande richesse d'Abraham, la grande richesse de Lot, la mauvaise influence de l'Égypte sur le caractère de Lot et aussi sur le caractère des serviteurs. Le conflit amorcé, donc la grande proximité de vie les uns avec les autres et le manque d'espace vital peut amener le développement de problèmes humains et de conflits. Garantie, n'importe qui a déjà vécu un petit peu où est-ce qu'on est serré, là, là, les caractères, ils sortent. Quand on est loin, qu'on a de l'espace, on est capable de gérer ça. Mais quand on est dans un espace un peu, on est contraint, là, souvent, les problèmes, ils vont sortir. Alors, c'est ça qui arrive dans le verset 6, c'est le conflit qui est amorcé. Le conflit est engagé dans le verset 7. Le conflit n'est pas entre Abraham personnellement et Lot personnellement, mais c'est à travers les serviteurs respectifs. Alors, ils ont reçu très certainement une mauvaise influence dans leur vie en Égypte. Et la dernière partie du verset a l'air, mais très importante. Le Seigneur nous rappelle que le conflit a lieu dans un endroit où tu es observé par les païens. La dernière partie du verset 7, ça dit quoi? Or, les Cananéens et les Phérésiens demeuraient dans le pays. Y a-t-il quelque chose que les païens aiment plus que de voir un conflit ouvert chez les chrétiens? Qu'est-ce que ça a pour effet? Garde-moi là-dedans. Penses-tu qu'ils sont plus fins que nous autres? Regarde-moi là! Ils agissent comme des rats sauvages. C'est vrai! Et ça, dans l'histoire de l'Église, prenez l'histoire de l'Église dans son ensemble, et vous allez voir que ça, c'est vrai. Quand il y a des chrétiens qui chicanent, puis que ça dure, le monde se délecte littéralement de ça. Ils sont contents de voir ça, parce que ça les rassure. Ils sont pareils comme nous autres. Ça ne devrait jamais faire ça. Ils ne devraient jamais dire qu'ils sont pareils comme nous autres, parce qu'on n'est pas pareils comme nous autres. Mais eux, ils ne comprennent pas. Mais quand ils voient les chicanes qui durent, qui perdurent, eux, ils disent qu'ils sont pareils comme nous autres. Une gang d'hypocrites. Alors, ça, c'est terrible. T'amène les gens à blasphémer le nom de Dieu. Versets 8 et 9, on va voir que Dieu se sert d'épreuves pour nous faire profiter d'une certaine expérience, de décisions devant lesquelles nous sommes placés et qu'on se doit de prendre des décisions sages, selon ce que lui nous enseigne. Versets 8 et 9, et Abraham dit à Lot. Voyez-vous, ici, on voit le plus vieux, celui à qui Dieu a fait la promesse, qui va agir d'une façon... Il n'y avait pas d'affaire à faire ça. C'était à lui d'avoir le premier choix. Il était le plus vieux, donc le jeune, il aurait dû dire, Lot aurait dû dire, « OK, mon oncle, prends, va où tu veux, puis moi, on va prendre le reste. » Oui, il fait exactement l'inverse. Et Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie. » Voyez-vous, même l'expression, la manière de s'adresser à lui. On voit que même dans le langage, ça se traduit, le fait d'être chrétien. « Je te prie, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car, il leur rappelle quelque chose, la fraternité, nous sommes frères. La fraternité nous impose des devoirs, nous impose une façon de se comporter, une façon de parler. » Verset 9, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Voyez-vous, sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Il lui donne la priorité de choix. Ça, c'est de la magnanimité d'âme, grandeur d'âme, la générosité. Pour éviter la chicane, il est prêt à piler sur ses droits. S'il y a une chose aujourd'hui qui n'est pas populaire dans l'ensemble de la population, c'est quand les personnes sont dans leurs droits. « Oh mon Dieu, tu vas-tu l'entendre? C'est mon droit! » Et là, c'est épouvantable. Les gens ne feront jamais aucune concession quand leurs droits sont en jeu. Alors ici, on voit le père des croyants que ses droits sont en jeu et il ne les mentionne même pas. Pour garder la paix, il se sacrifie. Alors, Abraham nous apprend la bonne attitude à adopter lorsque des conflits s'amorcent. Reconnaître d'abord nos devoirs face à la fraternité, faire preuve d'un esprit conciliable ou traitable. Il y a des versions qui utilisent conciliable, il y a des versions qui utilisent le mot traitable. Dans Jacques 3, 17, ça dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée. » Dans la version Louis II, ça se dit « conciliante » et dans la version, on va utiliser le mot « traitable ». On sait ce que c'est quand quelqu'un est conciliant. Et autrement dit, c'est quelqu'un qui est capable de mettre un peu d'eau dans son vin. Traitable, ça veut dire qu'il est discutable. Bon, il reconnaît, oui, peut-être j'ai fait quelque chose de pas correct. Il est ouvert, autrement dit. Alors, c'est ça que ici, la volonté de règlement pacifique d'Abraham est louable pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle est immédiate. Il n'attend pas que ça s'envenime au point où ce que ça dégénère et que ça dérape en une chicane publique, que les pharisiens vont voir ça puis ils vont se délecter de voir les chrétiens s'entre-déchirer. Elle est aussi préventive. Il sait très bien que s'il laisse le droit à son neveu, qui lui est charnel, il va éviter. Alors, ça prévient une... Elle est douce aussi. Son intervention est douce. On le voit par son langage. Puis elle est aussi biblique. Il comprend très bien que pour éviter une chicane, même si tu piles sur tes droits, il n'y a rien là. Fais ça, puis le Seigneur va venir te redonner des choses par la suite. Elle est, bien sûr, son intervention gracieuse dans le fait qu'il était le Seigneur. Si tu es le président d'une compagnie, normalement, tu devrais avoir priorité sur, je ne sais pas moi, le secrétaire ou... T'es la personne qui devrait avoir la priorité. Ici, on voit que c'est lui le Seigneur et il se sacrifie. Alors, il sait que c'est lui qui est le récipiendaire de la promesse et il va régler son conflit. Avec douceur, magnanimité, renoncement à ses droits et sans reproche. Souvent, quelqu'un va renoncer à ses droits. Oh. Ouais, mais là, je te laisse ça, là, mais dans le fond, là, ça ne devrait pas être toi qui a ça, ça devrait être moi. Aucun mot. On voit là-dedans, il y a beaucoup de choses à apprendre pour nous, là. Énormément. C'est plein de leçons, les Écritures, parce qu'on les médite passer. C'est peut-être ça qui vient le problème. Versets 10 à 13. Là, on voit un autre comportement, c'est celui de Lot. Et là, je peux le qualifier juste avec un mot. Pitoyable. Pitoyable. Parce que c'est un charnel, il ne regarde que ce qui plaît aux yeux, que ce qui est visible, il ne regarde pas au danger possible de s'installer dans un pays où c'est... Il n'a même pas envoyé quelqu'un, il n'a même pas dit, « Ben, on va aller vérifier quelle sorte de monde qui reste là. » Les Écritures, déjà, nous laissent sous-entendre par des phrases qui sont dites dans les versets que c'est un pays où c'était uniquement du monde méchant et du monde très pécheur. Au point que Dieu est descendu à un moment donné pour régler tout cela. On va le voir plus tard dans notre étude de la Genèse. Verset 10, « Alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain. » Apparemment que c'est un pays extraordinaire, une belle plaine, et là, il s'est laissé conduire juste par ses yeux. Il est beau. Ah, mes bergers n'auront pas de misère. Mes brebis n'auront pas de misère. Il ne pense pas à rien de spirituel. Il ne consulte pas Dieu. Il est charnel. Alors, plein de Jourdain, qui, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, voyez-vous, il y a une parenthèse là, dans le texte, il nous laisse sous-entendre que le pays vers lequel il se dirige est un pays pourri que le Seigneur va venir par juger. Était arrosé partout, bien sûr. Si tu vois une belle plaine, il y a des rivières, toutes bien arrosées, tu es certain que tu n'auras pas de problème avec ton bétail. Tu vas toujours avoir de l'eau, tu vas toujours avoir ce qu'il faut. Belle plaine, pas trop de misère non plus, pas trop de montagne. Les animaux vont bien. En allant vers Tsoar, et il y a des choses qui sont dites, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Comme, et regarde, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Ça ressemble, mais comme chrétien, on se doit de vérifier avant de faire un move, avant de faire un... Excusez pour ceux qui sont français, là, avant de faire un mouvement, avant de faire un déplacement, on se devrait de regarder où on se met les pieds. Parce que si tu t'en vas vivre dans un endroit où les gens qui t'entourent sont des grands pécheurs, ne pense pas que tout cela ne finira pas par avoir une influence sur toi. Une influence qui va être énorme. Et verset 11, on voit que là-dedans, Lot choisit pour lui, il ne dit pas une partie de la plaine, l'égoïsme, toute la plaine. Et il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, il partit du côté de l'Orient. Souvent dans les Écritures, quand quelqu'un part du côté de l'Orient, Il y a l'idée qui ne s'en va pas dans la bonne direction. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Est-ce qu'il se rend compte ici, lui, au moment que ça arrive, de l'influence que ça va avoir sur sa vie, lui qui est faible, de se séparer du père des croyants, de se séparer d'Abraham? Il ne se rend pas compte. Mais on va le voir plus tard dans l'histoire qu'il a vraiment fait le mauvais choix. Et dans le verset 12, on voit le comportement d'Abraham qui, lui, ça dit, habita dans le pays de Canaan. Et où Dieu voulait qu'il habite, lui? Dans le pays de Canaan. Il semble que la plaine, d'après les commentateurs, serait plutôt dans les limites. Autrement dit, c'est comme Canaan, c'est comme un pays avec des frontières. Lui, c'était sur le bord. Il était dans la partie sur le bord. Et là, ça nous dit, Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Autrement dit, il est allé s'installer dans le cœur où il y avait le plus de mal, où il y avait le plus de pécheurs. Et verset 13 nous dit, le verset 13 déjà nous laisse comprendre que notre ami Lot a vraiment fait un mauvais choix. Or, les gens de Sodome étaient méchants. Et, ça ne dit pas des pécheurs devant l'Éternel, de grands. On sait aujourd'hui, l'expression sodomite, ça vient... Alors, c'était des pays qui étaient versés énormément, enracinés dans le mal, plongés dans le mal d'homosexualité et de péchés de cette nature-là. Alors, dans les versets 10 à 13, on voit que Lot fait un choix charnel, déterminé par des critères superficiels et irréfléchis. Il se laisse guider par la sensualité, il se laisse guider par la convoitise. Ah, le beau pays! Je vais tout avoir ça pour moi. Puis là, Abraham s'arrange avec ses troupes. Consulte pas le Seigneur, il ne s'informe pas de l'état spirituel de ses nouveaux voisins, et il agit égoïstement et irrespectueusement envers son oncle. Il ne réalise pas encore pleinement les dangers que comporte la séparation avec Abraham. Les Écritures nous parlent des gens de Sodome dans d'autres passages. C'est intéressant d'aller les voir pour nous. Ça nous donne une idée dans quel piège il était en train d'aller s'installer. Il était des grands pécheurs devant l'Éternel. Dans Ézéchiel, chapitre 16, au verset 49, ça nous dit c'était quoi le problème qu'il y avait dans ces villes-là. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome. Autrement dit, les Écritures nous disent que ça venait d'où le grand péché qu'il y avait dans Sodome. L'orgueil, l'abondance et une molle oisiveté. Prenez n'importe qui, mettez-le dans la grande richesse, qui n'a rien à foutre pour gagner sa vie, il ne travaille pas, autrement dit, tu es sûr que tôt ou tard. Regardez les Américains dans le sud qui ont beaucoup de richesses. Souvent, vous allez voir ça. Ils sont riches, donc ils n'ont plus besoin de travailler. Donc, ils rencontrent exactement ça. Ça fait d'eux des personnes orgueilleuses. Hey, nous, on a gagné des millions et des millions. On se promène avec des gros bateaux. On a des grosses maisons. Alors, ils sont orgueilleux, ils se pensent supérieurs aux autres. Et ils sont exactement dans ça. L'orgueil, l'abondance, l'immense abondance et une molle oisiveté. L'oisiveté, ça veut dire « tu fais rien ». Mais moi, l'oisiveté, c'est encore plus rien faire. Tu sais, c'est mou, là. Tu te laisses aller, autrement dit. Voilà ce qu'elle avait, elle et ses filles. Autrement dit, tu es en train de parler de non seulement Sodome, mais toutes les villes du milieu. Mais elle ne soutenait pas la main de l'affligé et du pauvre. Autrement dit, ça fait de toi un être égoïste. Même si tu vois plein de besoins autour de toi, tes deux yeux sont fermés et tu ne te préoccupes que ton nombril. Et dans le verset 2 Pierre 2, verset 6 à 8, on nous apprend dans le Nouveau Testament une chose importante sur Lot. Ça dit, « Et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, il les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. » Autrement dit, Dieu a donné cette destruction-là de ces villes-là, c'est pour donner un exemple à ceux qui font comme eux. verset 7, « Et s'il a délivré le juste Lot. » Voyez-vous, juste Lot, là, il était dans cette ville-là, normalement, si ce n'eût été de Dieu qui a eu miséricorde de lui, qui lui ait fait grâce, il aurait passé lui aussi. À cause du fait qu'il avait reçu la grâce de Dieu, Dieu l'a délivré, comme ça dit dans le verset 7. Et ça dit, par contre, il était dans ce milieu-là, mais ça ne veut pas dire qu'il s'y complaisait. Ça dit qu'il souffrait de la conduite infâme de ces abominables. Il regardait ça autour de lui, puis avec son épouse, il devait dire, « Mais sont-tu terribles? » Il passait ses journées à souffrir de voir ce spectacle-là. Car ça dit dans le verset 8, « Car ce juste... » Voyez-vous, on a ici une déclaration sur l'état spirituel. Dieu lui avait pardonné ses péchés, mais il ne faut surtout pas prendre l'exemple de Lot puis se dire, ben là, nous aussi, on va vivre dans le péché, puis nous autres aussi, Dieu va nous sortir de là. Il ne faut jamais prendre l'exception comme une règle, parce que là, on risque vraiment de se mettre le doigt dans les yeux jusqu'au coude, comme on dit. Car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leurs méchantes actions. Alors, utiliser ces versets-là pour justifier notre mauvais comportement en disant « Si j'ai reçu la grâce, Dieu va me sortir de n'importe quelle situation. » Ça ne marche pas de même. Alors, si on regarde puis on fait une comparaison entre les deux hommes, le choix et le comportement d'Abraham et de Lot, on voit que Abraham se comporte dignement, généreusement, magnanimement, dans un esprit de renonciation de ses droits. Il est conciliant et plein d'amour. Si on ne voit pas des leçons pour nous là-dedans, dans ce texte-là aujourd'hui, là, on manque le bateau. Parce que le Seigneur nous dit qu'il nous donne les Écritures pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Alors, apprenons. Prions que l'Éternel permette que les principes descendent dans nos cœurs et que ça produise un effet dans notre comportement. Et le troisième point, le réalignement. Donc, il agit correctement. Dieu va intervenir, Dieu va lui apparaître, Dieu va venir lui confirmer l'alliance qui avait été donnée dans le chapitre 12. Il va revenir lui montrer que les promesses qu'il lui avait faites, il va les garder. Alors, on voit que dans le verset 14, il reçoit la visite gracieuse divine. Verset 14, « Et l'Éternel dit à Abraham. » Voyez-vous, ça vient, c'est fini l'épreuve. Il a gagné. Ça aurait bien pu rester là. Mais non, Dieu intervient. Dieu vient te dire, Dieu vient te parler à ton cœur, à ton âme. Et il dit, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. » Alors vraiment, le Seigneur est en train de lui dire, « Qu'est-ce que je t'avais promis? Une terre? » Ce n'est pas nécessairement lui qui en a pris possession. Mais il lui avait dit, une terre pour ton peuple, pour ta descendance. Et lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ça, je t'ai promis que tu vas l'avoir, mais tu vas l'avoir. Alors, il aurait bien pu dire, lui-là, « Ah oui, il me fait rentrer dans le pays Canaan, puis je suis obligé de tout donner mes affaires à mon neveu. » Dieu vient le rassurer. Dieu vient lui dire, « Te fais le bon choix. » Alors, le moment, ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer le moment de l'intervention de l'Éternel, toujours bien choisi. L'Éternel n'est jamais en retard, jamais avant son temps, puis jamais après son temps. Alors, son serviteur ici a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être fortifié, et c'est exactement ce que Dieu fait avec lui. Le Seigneur veut rassurer Abraham qu'il a fait le bon choix. Et remarquons que cette révélation divine-là, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est personnelle à lui, en personne, à Abraham. Elle est aussi gracieuse, bien entendu. Seigneur, tu n'es pas obligé d'intervenir pour lui dire que tu as bien fait. Là. Mais il intervient. Elle est aussi opportune et réconfortante. Versets 15 à 17, on va voir que non seulement il lui fait une visite gracieuse, mais qu'il confirme et ratifie la promesse dans les versets 15 à 17. « Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Ici, des choses que parfois on ne prend pas nécessairement conscience de ce qu'il est en train de dire quand de la poussière de la terre. C'est sûr que si on se met à vouloir compter les brins de poussière de la terre, on va avoir de l'ouvrage, pas mal longtemps. Mais ici, il lui promet un pays. Alors, malgré les obstacles et les difficultés, pays occupé par les ennemis, il y a une femme stérile, il est rendu vieux. Alors, il voit ça, puis c'est vrai qu'il peut y avoir un moment où que, ben, tu m'as promis ça, mais il ne se passe rien. Alors, il y a comme un moment de découragement. Il a besoin de se faire rassurer que le Seigneur vient nous dire, « Ce que je t'ai dit, là, regarde, ça va se produire. C'est juste une question de temps. C'est la foi. » Il va lui accorder le pays à lui et à sa postérité pour toujours. La promesse d'une postérité dans le verset 16. Très intéressant. Parce que là, quand on lit ça rapidement, on ne pense pas à tout ce qui est contenu là-dedans. Premièrement, là-dedans, il y a très certainement l'image de l'Église. Sa postérité, c'est ceux qui sont en Christ, donc l'image. Galates 3.16, à chaque fois qu'on a fait un sermon depuis quelque temps, on revient sur Galates 3.16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à sa postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. « Et à ta postérité qui est Christ ». Autrement dit, tu es en train de te dire... Tous ceux qui sont en Christ, qui est éventuellement dans le cours de l'histoire, dans le cours du développement de la chrétienté dans l'espace et dans le temps, sont ta postérité. Et c'est ça, là, quand il parle de la poussière de la terre, là, des dizaines, des centaines de millions de personnes. Ça fait-tu du monde, ça? Après ça, il y a un autre intéressant, Romains 4, verset 11. Il parle d'Abraham dans le contexte, il dit « Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eue étant incirconcis, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis. » Romains 4 est en train de parler qu'il n'y aura pas juste des Juifs qui vont croire, il va y avoir des incirconcis. Les Juifs utilisaient l'expression « les incirconcis » pour parler des païens qui les entouraient. Et que la justice leur fut aussi imputée. Alors, quand il parle de la postérité, tous les croyants de l'Ancien Testament et tous les croyants du Nouveau Testament sont la postérité de David. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses comprises dans cette postérité-là? Oui, il y a la nation juive à l'intérieur de laquelle il y avait des descendants d'Abraham spirituels et des descendants d'Abraham charnel. On va regarder Matthieu. Mais quand il... alors ici, dans le contexte, c'est notre ami Jean-Baptiste. Mais quand il vit venir à son baptême, plusieurs des pharisiens et des sadducéens, on parle des Juifs, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» « Produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne pensez pas dire en vous-mêmes. » Remarquez bien ce que les Juifs disent en eux-mêmes. « Nous avons Abraham pour père. » Ils étaient des Juifs, ils étaient conscients de leur descendance d'Abraham. Mais ici, qu'est-ce que Jean-Baptiste est en train de leur faire prendre conscience? C'est pas à cause que tu descends d'Abraham dans la lignée physique que tu es nécessairement un enfant de Dieu. Si tu n'as pas de fruit de repentance, c'est ce qu'il va dire, là, un peu plus loin, nous avons, il dit, ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit point de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van dans ses mains, et il nettoiera parfaitement son air et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. » Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous dites que vous descendez d'Abraham, mais si vous descendez d'Abraham, il faut que vous ayez un comportement comme celui d'Abraham, obéissance, foi. Sinon, il est en train de leur dire, le dernier, le froment, c'est à l'intérieur de la nation d'Israël, il y a des vrais croyants, mais à l'intérieur de la nation d'Israël, il y avait aussi des personnes qui étaient des descendants juifs, mais qui n'étaient pas sauvés. Il dit, il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Il parle de quoi, là? Il parle de l'enfer. Il est en train de parler des Juifs. Donc, à l'intérieur des Juifs, on parle encore de la postérité d'Abraham. Et Romains 9, versets 3 à 8, « Car je désirais moi-même d'être anathème, loin de Christ, pour mes frères, pour mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses qui descendent des pères. » Et de qui est sorti, selon la chair, Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Quel beau verset! C'est pas tous ceux qui descendaient, qui faisaient partie de la notion d'Israël, qui étaient le véritable Israël de Dieu. C'est ça qu'il dit dans le verset 6 de Romains 9. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il a dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont des enfants de la promesse qui sont réputés être sa postérité. Tu es en train de parler de ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, il y a des Juifs en Jésus-Christ, puis il y a des non-Juifs en Jésus-Christ. Tu es en train de parler d'eux autres. Mais encore plus large que ça. Pas mal large. Nation juive, ses descendants, l'ensemble de tous les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais il y en a un autre. Les Arabes sont des descendants d'Abraham. À cause de quoi? À cause qu'il a voulu, encore une fois, agir par la chair à cause du conseil de sa femme, et ça, tout ça, ça l'a eu pour effet que ça l'a donné naissance aux nations arabes. Nous savons qu'Abraham donna naissance à Ismaël. Abraham avait alors 86 ans et il avait séjourné 10 ans en Canaan, Genèse 16, 3. Ismaël est issu de la sagesse charnelle, non pas de la foi. Ismaël est le fils d'un père qui, face à la promesse de Dieu, se laisse aveugler par les impossibilités apparentes et se force d'obtenir, par des moyens humains, l'effet de cette promesse. C'est terrible quand on pense à ça. Il ne fait pas confiance à Dieu encore une fois. Et sa femme, elle lui dit, « Ben là, on aurait vraiment d'enfant, je suis rendu vieux, on aurait vraiment, voyons. » Alors, elle dit, « Permets que ma servante aille voir toi, et on va voir. » Parce que dans ce temps-là, il considérait que même une servante qui se donnait au maître, l'enfant qui sortait, c'était comme si c'était l'enfant de Sarah. On a vu que ce n'est pas même que ça s'est produit pendant tout. Il y a eu des problèmes. Ce qui est intéressant, je voulais savoir combien il y avait de musulmans, pas de musulmans, mais d'arabes dans le monde. J'allais faire une petite recherche sur Wikipédia. Savez-vous combien il y en a d'arabes dans le monde? 450 millions. Alors, si vous prenez les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, la nation juive dans son ensemble et les 450 millions d'arabes, ce sont tous des descendants d'Abraham d'une certaine façon ou d'une autre. Est-ce qu'on voit ça la première fois qu'on lit dans le texte? On ne le voit pas nécessairement, mais c'est là pareil. Intéressant. Alors, ici, dans le verset 17 aussi, il lui demande d'aller prendre possession du pays. Autrement dit, parcours-le de long en large. Et on voit aussi l'engagement déterminé par l'obéissance, verset 18. Alors, Abraham transporta ses tentes, vint demeurer aux chênes de Mamré qui sont à Hébron, bâtit là un hôtel. Alors, trois choses qui se produisent quand il fait ça. Il confirme sa reconnaissance de son statut de pèlerin. Il voyage, il continue de se promener dans le pays de tente en tente. Autre chose, il s'installe dans les voies divines. Très intéressant, je vais y aller rapidement, là. Mais j'ai fait une recherche sur le chêne de Mamré Et le chêne de Mamré, j'ai vu une photo sur Wikipédia. Il y a un arbre qui est encore là aujourd'hui, proche d'Hébron, il y a 5000 ans. C'est le chêne de Mamré. Et c'est un arbre énorme. Ça fait penser un peu aux arbres qu'on voit en Colombie-Britannique. Là. Énorme! Fait que là, c'est quoi l'image d'un chêne? La force. La solidité. Il s'en va s'installer. Hébron aussi véhicule l'idée que c'est vraiment... Hébron voudrait dire l'ami de Dieu. Et... ça veut dire normalement lié, associé ou allié. Donc le mot Hébron voudrait dire donc le lieu de l'alliance. Autrement dit, ça va s'installer au côté d'un arbre qui vit encore aujourd'hui. Souvent on l'appelle l'arbre de l'ami de Dieu. Et même aujourd'hui, les grandes religions monothéistes, les Juifs, les chrétiens et les Arabes considèrent cet arbre-là. Et ça vaut à peine d'être vu. J'ai resté surpris. Je ne pensais pas que c'était si gros que ça. C'est vraiment énorme. Ils disent, selon les estimations, qu'il y aurait 5000 ans. Alors, c'est sûrement c'était un des vieux arbres de la terre. Alors, et encore là, qu'est-ce qui se produit quand Dieu le remet sur le chemin? Il vient adorer. Alors, il vient. Dieu parle à son âme. Et il vient faire de la révérence envers Dieu. Et c'est encore une fois... C'est son troisième autel. Je n'avais pas remarqué ça. Un commentateur me faisait remarquer. Il dit, remarquez que c'est son troisième autel depuis que son appel avec Dieu. Alors, on va faire nos applications. Apprenons des leçons d'Abraham. Comme lui, le Seigneur peut nous ramener à nos cases départ pour être retestés. Comme lui, choisissons de demeurer dans les voies de Dieu. Son choix de s'installer dans Canaan, qui est le symbole du ciel. Comme lui, prévenons les conflits en les réglant avec grandeur d'âme, générosité, oubli de soi et de nos droits. Comme lui, gardons les yeux fixés sur Jésus en toutes choses et en tout temps. Apprenons maintenant des leçons de Lot. Contrairement à lui, faisons des choix basés sur des critères spirituels et réfléchis. Contrairement à lui, éloignons-nous et séparons-nous du monde. Contrairement à lui, éloignons-nous des méchants et des pécheurs rebelles. Troisième application, adorons le Seigneur pour son amour et sa grâce. Il récompense et communique avec l'élu obéissant. Il conduit souverainement ses enfants. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que l'Éternel soit béni pour son don ineffable, Jésus-Christ. Amen.